Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Massin pour parler de l'alchimie des émotions. Christophe Massin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lily.
Bonjour à tous les deux. Christophe Massin, vous êtes psychiatre de formation, mais après avoir rencontré la spiritualité indienne et en particulier l'enseignement de Swami Prajnampad à travers Arnaud Desjardins en 1974, ça ne date pas d'hier, vous avez élargi votre regard sur le sens même de ce mot de thérapie, en sorte que désormais vous vous définissez plus volontiers comme un psychiatre thérapeute. En effet, cette découverte donc de la pensée de Swami Prajnampad vous conduira auprès de maîtres tibétains et indiens dont les enseignements imprègnent désormais votre pratique de psychiatre-thérapeute. Vous vous intéressez particulièrement à l'interaction entre psychothérapie et démarche spirituelle et aux synergies qui peuvent se mettre en place entre ces deux dynamiques. Et vous accordez une importance primordiale à l'idée que cette démarche doit absolument s'insérer dans la société actuelle, dans une interaction avec les autres, pour donner tous ses fruits. Dans vos précédents ouvrages, vous avez traité de questions justement liées aux divers risques psychosociaux dans la vie de tous les jours, par exemple dans le monde du travail, dans « Réussir sans se détruire, des solutions au stress du travail » chez Albin Michel en 2006, ou alors dans vos recherches sur la périnatalité dont vous rendez compte dans « Le bébé et l'amour » chez Aubier Flammarion en 1996. Aujourd'hui, nous vous recevons pour un ouvrage qui pose le cadre plus général de votre travail et dans lequel vous montrez comment l'émotion, si elle est transformée, peut devenir source de connaissance de soi et surtout une source d'amour envers les autres. Et à ce moment-là, les autres comptent infiniment plus que soi-même.
Vous citez au début de votre ouvrage une citation de Swami Prajnampad que j'aime beaucoup, cette citation très forte. « Soyez d'abord convaincus que toutes vos souffrances viennent de vos attirances et de vos répulsions. » Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette conception de l'origine de la souffrance ?
Cette conception est très proche aussi de celle du bouddhisme, de l'analyse du Bouddha. Et donc où effectivement... il va y avoir souffrance chaque fois qu'il y a un décalage en fait, entre ce que nous attendons de la vie, des autres, et puis ce qui se passe en réalité. Donc dès qu'il y a un décalage, en fait, mon attente est déçue, surtout si ça ne va pas dans un bon sens à mes yeux, et donc l'émotion, la souffrance va apparaître. Donc voilà, c'est là où on a tout un travail à faire finalement pour se rendre compte que nous avons tendance à dire « c'est la vie qui me rend malheureux », alors qu'en fait, souvent, ce sont nos attentes déçues qui nous rendent malheureux.
Mais alors, vous êtes médecin à la base, donc vous avez quand même vu beaucoup de gens qui viennent vous voir parce qu'ils souffrent dans leur corps. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les souffrances de la santé ?
Non, je trouve que c'est quand même différent parce que les souffrances du corps... ont des origines extrêmement diverses, variées, qui peuvent tenir à l'alimentation, à la génétique, à plein de choses. Donc non, je ne veux pas assimiler ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit.
Parce qu'on aurait pu dire c'est l'attente d'une santé parfaite qui nous rend malheureux.
Oui.
Dans ce sens-là, si
dans
on jusqu'au bout de la
oui.
pensée de Prajnampad.
Bien sûr, quand la maladie est là et qu'effectivement je refuse la présence de la maladie, je trouve que c'est une injustice qui me frappe. Effectivement, là, je vais rajouter au désagrément de la maladie une souffrance psychique dont je pourrais éventuellement faire l'économie, en fait.
Oui, c'est vrai que dans ce livre, ce dont vous parlez, c'est précisément cette souffrance qui vient se surajouter à nos frustrations. C'est-à-dire que vous nous montrez qu'en fait, la souffrance... Alors, on pourra discuter tout à l'heure, voir si on peut... si finalement il est si intéressant que ça de vouloir l'enlever. Est-ce que c'est pas un état naturel et normal? Est-ce que c'est pas normal d'être dans une certaine souffrance? Sinon ce serait un peu étrange. Mais enfin, voilà, votre idée de départ, c'est que quand même la souffrance, elle vient du fait que fatalement, nécessairement, on est frustré par la vie. Alors, soit on tombe malade, bon, ça c'est carrément une souffrance aussi physique, mais enfin, dès le début, on n'est pas le centre du monde comme on voudrait l'être quand on est bébé, et que c'est une chose dont il faut prendre acte et avec lequel il faut apprendre à vivre.
Oui, donc dans le livre, je fais aussi une distinction entre souffrance, qui est un composite d'émotions et de pensées négatives, et je dirais le désagrément ou la douleur que peut provoquer la vie. Et en fait, ce n'est pas la même chose. Donc effectivement, on ne peut pas éviter dans la vie de rencontrer le désagrément, voire des choses extrêmement difficiles et douloureuses. Mais à partir de là, dans la manière de prendre cet aspect douloureux de la vie qui est absolument inévitable, nous pouvons rajouter... justement en nous sentant victimes, en trouvant la vie injuste, en accusant les autres, en accusant le destin, etc. Ou en nous accusant nous-mêmes. Ce qui est souvent la plus grande des souffrances, c'est de dire c'est de ma faute et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Et que justement, c'est là que de tout ça, on peut faire l'économie en voyant que ça, c'est surajouté. La douleur de l'existence, on ne peut pas l'évacuer, mais la souffrance, oui, on peut s'en délivrer. Donc c'est ça vraiment le propos de ce livre.
Oui, d'ailleurs, ça s'appelle « Souffrir ou aimer, transformer l'émotion ». C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de transformer l'émotion désagréable en une émotion qui, au contraire, soit beaucoup plus positive et riche dans notre expérience de vie.
C'est-à-dire, je distingue trois étapes, en fait. Une première étape, c'est la souffrance, c'est-à-dire un mélange complexe d'émotions. Ben, par exemple, on vit une situation de couple difficile ou une relation familiale difficile, on est mal, mais c'est un mélange, on est triste, on a du ressentiment contre l'autre, on a des craintes sur le futur, on pense qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va devenir, on pense sur soi, on pense sur l'autre. Ça, pour moi, c'est la souffrance. Donc, tout un paquet, souvent, qu'il est difficile de démêler. Donc, toute une part du travail, qui est proprement le travail thérapeutique, va consister à démêler cet écheveau pour arriver à des émotions fondamentales. C'est-à-dire, ben, dans cette situation, qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui est vraiment douloureux pour moi? Je suis en colère, je suis triste. Donc, des émotions qui sont comme les couleurs fondamentales, alors que la souffrance est un amalgame de plusieurs couleurs à la fois. Donc, arriver à des couleurs nettes et pures, à un moment donné. Donc, ça va être une grande étape de passer de la souffrance, qui fait beaucoup intervenir le mental, à simplement un ressenti douloureux. Et puis après, à partir de ce ressenti douloureux, bon, donc là, on va toucher vraiment le travail spirituel. Bon, ben oui, les grands enseignements spirituels, tous constatent la présence de la douleur, la difficulté dans la vie, et comment nous situons-nous face aux événements douloureux de l'existence si nous débattons plus dans la souffrance. Ben, il reste une douleur, et cette douleur, finalement, dans cette démarche, on peut faire l'expérience par le travail spirituel que si on l'accueille totalement, si on ne résiste plus du tout et qu'on se laisse traverser par elle, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si on passait de l'autre côté du miroir, eh bien, on va constater qu'il y a un plan en nous qui n'est pas affecté. Alors qu'on se croyait détruit, qu'on a l'impression qu'on va mourir sur place, eh bien, on découvre que, mais non, si je ne résiste pas du tout, justement, là, il y a la transmutation, la transformation de l'émotion qui, d'émotion douloureuse, va déboucher sur une ouverture du cœur et un sentiment de paix, d'amour.
Donc, la clé spirituelle, c'est dire oui à la vie, c'est l'acceptation, le lâcher prise.
Et à la vie en nous, pas seulement à l'extérieur. Parce que souvent, beaucoup de personnes comprennent l'acceptation. Il faut que je dise oui à ce qui se passe à l'extérieur. Mon conjoint m'a quitté, j'ai perdu mon travail. Certes, oui. Mais ce oui à la situation extérieure, s'il n'est pas accompagné d'un oui à ce que la situation me fait vivre au-dedans de moi, il va rester superficiel parce que, bien sûr, il est évident que face à une situation douloureuse, bah, ça proteste à l'intérieur. Et que si on essaye de dire oui par là-dessus, il va rester au fond de nous un fond de refus. Donc il est nécessaire d'aller au bout de son refus, de sentir « mais oui, je ne veux pas de ça, non », de vivre pleinement le refus et la douleur de l'émotion, parce que c'est ça qui va permettre qu'à un moment donné, on a assez refusé, ça suffit. Et justement, il y a ce retournement intérieur qui peut se produire. Donc j'insiste beaucoup sur ce point parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont engagées dans une démarche spirituelle, pas seulement celle-là, celle de Swami Prajnanpada, mais des bouddhistes, des chrétiens. Et souvent, leur pratique de l'acceptation les amène plus ou moins à mettre un couvercle sur ce qu'ils ressentent. Ils veulent être des bons disciples et disent oui, il faut dire oui. Mais ça ne descend pas jusqu'au fond de leur cœur, ça ne descend pas jusqu'au fond de leurs doigts de pied. Ça reste plus dans la pensée, en fait. Alors que l'acceptation doit intéresser la totalité, nous-mêmes, de la tête aux pieds.
Mais est-ce qu'il y a des techniques qui aident à ça? Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de faire cette transformation, cette alchimie des émotions?
Oui. Donc, chaque tradition a ses outils propres. Dans l'enseignement qui vient de Swami Prajnanpada, il y a une approche particulière qui s'appelle le laying, qui est donc justement une pratique intense de l'acceptation. C'est pas à proprement parler une thérapie, mais c'est justement chercher à sentir tous les refus que nous avons en nous par rapport à une situation que nous estimons intolérable, insupportable pour nous. Vivre ces refus, les laisser s'éliminer pour pouvoir complètement s'ouvrir à la situation douloureuse sans se débattre, se laisser vraiment traverser par elle. Donc oui, c'est une approche qui n'est pas à proprement parler une technique, c'est plutôt un état d'esprit, une intention de ne plus résister en fait. Vous parlez de lâcher prise, ben oui, dans le lâcher prise, on ne s'accroche plus, on ne se cramponne plus, on ne résiste plus.
Est-ce que cette méthode, c'est quelque chose, j'ai eu l'impression quand même qu'on ne peut pas le faire tout seul, parce que ça peut être parfois très difficile, ça peut ouvrir le couvercle à des choses extrêmement trop douloureuses pour qu'on puisse se confronter à ça seul, ou est-ce qu'on peut le faire seul?
Ben, pour pouvoir le faire seul, il faut quand même, comme vous le soulignez, une certaine solidité, et que beaucoup de personnes... là aussi, qui sont engagés dans des chemins spirituels de nos jours, comportent des fragilités. Des fragilités affectives, narcissiques, etc. Et donc, si elles font ça sans filer, ben effectivement, elles peuvent à un moment donné être confrontées à quelque chose qu'elles ne sauront pas accueillir, qui va les déborder, et elles vont prendre peur et couper, en fait. Je dirais le risque habituel, c'est plutôt que ça risque de ne pas aller très loin, plutôt.
Donc, en fait, je vous interroge pour savoir, vous, en tant que thérapeute, comment vous amenez, en fait, vos patients à faire ce travail intérieur. C'est-à-dire, comment, par quels moyens cette technique du laying arrive à les atteindre au point qu'ils puissent, justement, aller le plus loin, comme vous venez de dire, ne pas s'arrêter, et en même temps, en se connectant à ce qui est le plus intime d'eux-mêmes.
Ben, c'est une progression. Donc, c'est pas tant une technique, d'abord, que d'instaurer une relation de confiance, où la personne déjà sent qu'elle peut s'exprimer, et déjà qu'elle puisse elle-même commencer à reconnaître ce qui la touche, ce qui l'affecte. Bon, certaines personnes sont submergées par la souffrance quand elles viennent me voir, mais d'autres sont souvent très anesthésiées et ressentent pas grand-chose. Il va y avoir déjà tout un travail pour les aider à se rendre compte, tiens, là je suis touché, là je suis affecté, ça me fait mal. Alors qu'au départ, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ce n'est pas une technique magique d'un seul coup, je vais leur envoyer des fluides pour qu'eux. Non, c'est un cheminement qui se fait ensemble, à travers une relation de confiance qui n'est pas gagnée dès le début. Donc souvent, il faut du temps pour établir une vraie relation de confiance, que la personne sente qu'elle vraiment ne va pas être jugée, qu'elle va être accueillie. Et non seulement ça, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'elle sente vraiment une bienveillance active, en fait. Donc il l'invite à ça, qu'il l'invite à dire ce qu'elle a sur le cœur, y compris ce qu'elle ne sait pas.
Mais est-ce que ce n'est pas le propre de toute psychothérapie ?
Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que le laying n'est pas une technique spéciale du tout à mes yeux. Donc, c'est plutôt un état d'esprit. Il y a toute une part qui est commune à la thérapie et une part qui justement ne vise moins que la thérapie. La thérapie vise à régler des problèmes, vise à réduire une souffrance. Là, ce n'est pas le même but. Ce qu'on vise, c'est vivre une qualité d'acceptation totale. Ce qui n'est pas pareil. Donc, on ne pose pas comme condition « Ah, je veux que mes problèmes s'arrangent ». On dit « Je veux faire l'expérience justement d'un lâcher-prise vis-à-vis de ce qui me fait le plus mal ».
C'est pour ça que vous le qualifierez plutôt de chemin spirituel, voilà, que
le
simplement thérapeutique.
Voilà, le laïc, proprement dit, pour moi, est vraiment une part du chemin spirituel.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Vous le citez plusieurs fois, Arnaud Desjardins, et donc on ne pouvait pas ne pas évoquer un texte de lui justement sur cette question de la souffrance, dans lequel il pose très bien sa façon de voir les choses. Il y a ma souffrance et moi, nous sommes deux. En refusant la souffrance, en m'écriant non devant ce qui m'arrive de douloureux, je crie plus fort que la vérité. Ma pensée amplifie ce qui est, instant après instant, elle se débat, non. Elle se crispe, elle refuse de souffrir, non. Elle en rajoute et j'entre dans un cercle vicieux. En plus de souffrir, je souffre de souffrir. Au contraire, si j'accepte mon ressenti face à ce qui est, pas plus, pas moins, je deviens un avec. Quittant la dualité, je peux entrer dans ma profondeur. Il n'y a alors plus de souffrance. Il y a un ressenti qui adhère à ce qui est. Il y a la souffrance sans moi. Il n'y a plus d'abonnés au numéro demandé. Apprenons à entrer dans la perfection du oui. Oui à ce qui est, et pas à ce que je voudrais qu'il soit. Il ne s'agit pas de se blinder. Le sage enlève son armure et dit « Tirez vos flèches, je ne refuse rien. »
Oui, je trouve ça résume parfaitement bien, de manière très claire, en fait, vraiment la démarche. Donc, ce n'est pas une démarche masochiste, au contraire, parce que ma souffrance, c'est une part de moi qui souffre. Si je rejette ma douleur émotionnelle, je me rejette. Donc, par exemple, on voit ça beaucoup avec la peur. Personne n'aime avoir peur. Donc, on veut être débarrassé de la peur. Mais en rejetant la peur, je rejette celui qui a peur en moi. Donc, celui qui a peur, il reste seul. Il est rejeté. Il n'a pas mon soutien. Donc, quand au contraire je m'ouvre totalement à lui, ben d'une certaine manière c'est cet accueil qui le rassure et qui le fait fondre.
Oui, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est vrai. J'invite nos auditeurs à vous lire jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin s'ils commencent. Parce que si on s'arrête en chemin, on est quand même un peu... On peut avoir un moment d'aporie, pour le moins, sinon de gêne, parce que vous dites même des choses comme il faut accepter sa jalousie, effectivement la peur des choses... qui sont quand même a priori considérées comme de mauvaises émotions, enfin des émotions en tout cas négatives, nuisibles, surtout négatives, c'est pas ça tellement le problème, que c'est quand même, on pense que c'est nuisible à notre être spirituel, d'avoir ces sentiments, ces émotions de jalousie, de peur, de colère, de haine, voilà, toutes ces émotions extraordinairement négatives, vous invitez à une traversée de cela. Mais il faut quand même faire très attention parce qu'on pourrait croire que vous dites, bah, c'est comme ça, après tout, ma jalousie, elle est là, il faut, je suis bien avec, et oui. Je vais la garder. Mais ce n'est pas tout à fait de ça dont il s'agit.
Non, clairement. À chaque fois, il y a une visée qui est d'être en adéquation avec la vie telle qu'elle est. Donc c'est sûr que tant que je suis dans un vécu émotionnel, je ne suis pas en adéquation. Si je suis jaloux, c'est que je pense que, j'imagine que, j'estime que l'autre est à moi, que l'autre n'a pas le droit de me faire ça, etc. Donc bien sûr, il y a toute une série de choses qui sont illusoires, parce qu'en fait non, l'autre ne m'appartient pas, je n'ai aucun droit sur lui. Mais de me faire la morale en disant « ta jalousie, c'est mal », ça va être absolument inefficace, ça ne va pas m'aider. Oui, je suis jaloux, c'est un fait. Et donc, de plonger vraiment dans la jalousie a tendance à se manifester par des comportements, des réactions. Et donc, effectivement, ça n'a pas de fin. Donc, ce n'est pas du tout cet aspect-là que j'encourage. C'est le fait de rentrer dans l'expérience de qu'est-ce que c'est être jaloux, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, ça brûle le cœur, ça tord le ventre, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est une douleur intérieure. L'enfant qui est jaloux de son petit frère, il va le pincer, il va chercher à lui faire du mal, il va faire des crises pour appeler l'attention, mais finalement il n'exprime pas sa douleur. Et donc au fond de la jalousie, il y a de la douleur. Si on rentre vraiment dedans, on va expérimenter cette douleur et là on peut se rendre libre. Sinon, ben voilà, de se moraliser, pour moi, ça n'a jamais libéré personne. Bon, ça peut modérer, tempérer, mais il suffit qu'il y ait un élément qui vienne restimuler et modération va être balayée en fait.
Oui, mais on peut avoir effectivement la conscience qu'il est nécessaire de traverser sa douleur. En même temps, il faut aussi avoir la conviction qu'on veut dépasser quelque chose. Donc il faut quand même un objectif, il faut quand même des valeurs, il faut quand même, je dirais, avoir une conscience de ce qu'on aimerait être plus idéalement. En tout cas, il faut avoir le désir de se transformer, de progresser.
Absolument. Ce que vous dites est fondamental et la première question que Swami Prajnapad posait à ses élèves, c'était « Que voulez-vous ? » Pas au nom d'un idéal, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous ? Et là aussi, cette question est tellement fondamentale pour ne pas se mentir. Parce qu'on peut dire « Oui, je veux la paix, je veux l'amour, etc. » Mais est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Parce que vouloir quelque chose, c'est aussi être prêt, comme vous le soulignez, à payer le prix, à s'impliquer, à se remettre en question. Donc, est-ce que je le veux au point de toute la démarche que ça va me demander pour y arriver? Donc, ce questionnement, il doit... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? À quoi je veux arriver? Il doit nous accompagner tout le temps et être comme notre boussole, en fait. Parce que face à une situation de la vie qui nous fait mal, eh ben moi, ce qui me vient, c'est ouais, l'autre, il va me le payer, il va voir ce qu'il va voir, etc. Mais c'est là que je me demande, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux effectivement soulager ta haine, par exemple, et faire payer à l'autre? Est-ce que c'est ça que tu cherches? Bon, mais là, j'ai à voir, qu'est-ce que je cherche moi? Admettons, je cherche la paix. Est-ce que je vais être réellement en paix si je détruis l'autre? Au-delà de la culpabilité, je ne parle même pas de la culpabilité, mais vraiment, est-ce que je vais me sentir profondément bien? Je vais constater que si je cherche vraiment, moi, pas avec des réponses toutes faites, pas des réponses morales, mais vraiment dans mon cœur, je vais m'apercevoir non que haïr quelqu'un m'empêche d'être en paix et d'alimenter la haine. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en paix, ça, c'est un tourment intérieur. Donc, si je veux être en paix ou si je veux être libre, il va falloir que, effectivement, je dépasse ma réaction. Mais donc, ce n'est pas facile. Quand on a de la haine et qu'on en veut à mort à quelqu'un, ce n'est pas rien, en fait, de dépasser ça.
Oui, et là, on rejoint toute la grande tradition de la connaissance de soi. Mais c'est vrai que ça met ensemble, en fait, la tradition antique, même des sages antiques de la connaissance de soi, et cette question d'exploration des émotions qui va quand même très, très loin, en effet, chez Swami Prajnapad. Donc, l'association des deux est très... Enfin, je dirais que les deux sont totalement indissociables chez lui.
Oui, c'est très spécifique à sa démarche, en fait. pense, parce que dans des, bon, certaines traditions du bouddhisme, tibétain par exemple, on va travailler sur des émotions, mais à travers des symbolismes en fait. Alors que là, c'est vraiment en direct, si c'est la haine. Et donc c'est là aussi où il y a une dimension tantrique chez lui. Dans le tantra, on fait totalement l'expérience des choses, y compris des poisons, entre guillemets, pour découvrir que si on en fait totalement l'expérience, justement, il y a une transformation. Et donc, ben, si dans le bouddhisme, on parle de ces émotions comme la haine, la jalousie, etc., comme des poisons, ben justement, on va faire l'expérience de ces poisons pour voir que finalement, derrière toutes ces émotions, en fait, il y a un amour qui souffre et qu'elles sont le chemin pour atteindre cet amour qui souffre. Et que si on les rejette, finalement, ça fait barrage. On ne peut pas accéder à l'amour.
Alors justement, il y a un texte que j'aime bien de Swami Prajnapad qui est dans... En fait, c'est Entretien avec Swami Prajnapad fait par Srinivasan. Et d'ailleurs, c'est avec une présentation d'Arnaud Desjardins. C'est publié aux éditions de l'Originel. Et là, c'est le début d'un chapitre qui s'intitule « La quête du soi ». Et il y a un petit extrait des Upanishads. Ça commence par un extrait des Upanishads. Je ne résisterai pas au plaisir d'intégrer évidemment ces quelques vers des Upanishads avant de lire donc le début de ce chapitre. « Celui qui croit ne pas savoir, sait. Celui qui croit savoir, ne sait pas. » Ceux qui croient avoir compris n'ont pas compris, et ceux qui croient n'avoir pas compris ont compris. À quoi bon chercher ce que l'on est ? C'est pour l'appliquer à sa vie. Sinon, à quoi cela sert-il ? Au lieu de rechercher ce que vous êtes, laissez plutôt ce que vous êtes s'exprimer à travers l'action. Si seulement vous prenez soin du présent et agissez maintenant intelligemment, alors le reste prendra soin de lui-même. Il n'est pas nécessaire de penser ou de faire des plans. Cela crée une division. Soyez occupé par le présent et mettez-y le meilleur de vous-même. Appliquez tout votre esprit et tout votre corps à la tâche que vous êtes en train de faire. Si vous marchez, les yeux doivent regarder devant et de chaque côté pour voir si le chemin est libre. Les mains bougent pour maintenir l'équilibre. La pensée ne doit pas vagabonder et courir après les choses inutiles. La pensée doit être attelée à cette même action. Alors la marche sera parfaite et le but ou l'objectif sera atteint. Si par contre, les jambes marchent, pendant que les yeux regardent le paysage et que la pensée vagabonde vers le passé et l'avenir, la marche peut se terminer douloureusement. Il peut vous arriver un accident, vous pouvez tomber dans un fossé. Les membres, les yeux et la pensée doivent agir à l'unisson. Bien sûr, on doit se connaître. Mais comment ? Ce que vous êtes doit s'exprimer. Observez votre expression et vous vous connaîtrez. Car se connaître soi-même, c'est tout connaître. Mais le questionneur ne trouve pas facile le retour à soi. Il éprouve une déception. Il est désemparé. Il ne sait pas comment faire. La meilleure façon de voir qui l'on est, c'est d'observer ses actions. Et c'est aussi la plus simple, parce que l'action se déroule devant vous. Alors, vous pouvez vous connaître.
Dans la citation au départ des Upanishads, il est question de savoir ou de ne pas savoir. Et effectivement, la plupart d'entre nous, des gens, vont dire « moi, je sais ». Je suis comme ça, un tel, mon conjoint, mes enfants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Nous prétendons savoir, et notamment nous prétendons savoir qui nous sommes. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça, parce que mes parents, parce que. Et en fait, ce savoir recouvre une grande ignorance. En réalité, nous ne savons pas qui nous sommes, et justement, c'est toute la démarche et une attitude très humble. Voir, effectivement, je ne sais rien et tout ce que je sais, ce sont mes a priori, mes jugements, et il faut que je laisse ça de côté. Et je vais essayer d'observer, parce que Swami Prajnapad était un scientifique au départ, un physicien, et donc il a gardé dans son approche et son accompagnement de ses élèves cette rigueur de la démarche scientifique expérimentale. Voilà, j'expérimente, j'observe ce qui se passe et je ne tire des conclusions que de ce que j'ai moi-même expérimenté. Donc, je ne pars pas d'un présupposé, « oh, mais moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça ». Non, je ne sais pas qui je suis. Donc, ce point-là est fondamental dans la connaissance de soi, c'est cette humilité de voir « je suis un mystère pour moi-même, en fait ».
Et donc, il faut suspendre son jugement non seulement des autres, mais même de soi-même.
Mais
en fait.
Surtout de soi-même. Je le vois avec la thérapie. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de thérapie. Des années de psychanalyse, de stages, de développement personnel. Et elles peuvent tout expliquer de leur comportement. Chaque fois qu'elles ont une réaction, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Elles ne sont pas heureuses. Donc, non, il y a une méconnaissance quelque part. Elles ne sont pas complètement reliées à ce qu'elles sont. Donc, ce n'est pas que mentalement, on puisse expliquer toutes nos réactions, qu'il y ait une connaissance de soi. La connaissance de soi, à mon sens, c'est quelque chose qui va au-delà des mots, qui est beaucoup plus intuitif et qui, au bout d'un moment, débouche sur du silence. C'est-à-dire que là, ça devient indescriptible, indéfinissable.
Vous venez de parler du bonheur. Est-ce que vous diriez que le fait d'être heureux, c'est finalement le but recherché de tout ce travail thérapeutique et spirituel?
Le but, il n'est pas unique pour tous. Il va se formuler différemment pour chacun. Donc, l'un va mettre le mot bonheur, l'autre va mettre le mot amour, un troisième va dire la liberté, la paix. Donc, on peut dire éventuellement qu'il y a le bonheur derrière, mais je trouve que c'est là aussi important de vraiment se questionner, de voir, mais moi, vraiment moi, qu'est-ce que je cherche? Bon, parce que pour certains, ce qui va être le plus précieux, c'est la liberté. Et parfois, ils auront à payer un tribut très lourd. Très lourd pour vivre cette liberté. Donc, on ne peut pas dire, vu de l'extérieur, ça a l'air très cool et... Bon, mais donc c'est qu'il y a une joie. Plutôt que bonheur, moi je dirais joie.
Encore une conception très spinoziste, hein, je le fais remarquer.
Oui,
c'est que la joie est le révélateur, effectivement, du fait qu'on est en adéquation avec notre être profond.
C'est vrai que c'est la ligne directrice, en fait, de tout ce que vous dites. S'il y avait un fil rouge, ce serait celui-là. C'est-à-dire de dire, qu'est-ce qu'être en adéquation avec soi-même? Alors, vous avez dit que pour chacun c'est différent, mais en même temps... il y a un socle commun. Le soi-même humain correspond à un socle commun. Et ce que vous ne définissez pas vraiment, la frontière que vous ne définissez pas vraiment, c'est comment interagissent, si jamais ils sont différents, elles sont différentes, la psyché et l'âme. Parce que vous passez des émotions au spirituel, à la dimension spirituelle, de la dimension spirituelle aux émotions, sans jamais vraiment nous dire dans quelle zone on se trouve, de quoi vous nous parlez exactement?
Vous dites la psyché et l'âme, pour moi...
La psyché et l'esprit.
Oui, voilà, l'âme, c'est la psyché en grec, donc voilà, la psyché
et l'esprit,
et oui. L'esprit à ce moment-là. Effectivement, le monde de la psyché, c'est le monde des images mentales, c'est le monde des désirs, c'est le monde des émotions, c'est tout ce qui est changeant en nous, en fait, tous les états. Justement, c'est ça la beauté de la psyché, c'est que c'est un feu d'artifice de couleurs, des plus sombres aux plus lumineuses, qui peuvent nous traverser. Alors que l'esprit, justement, on pourrait dire, n'a pas de couleur. L'esprit, ou la conscience, en fait, va éclairer la psyché et justement mettre en lumière ces couleurs. Donc, pour moi, là, on rentre dans un domaine qui est plus délicat à dire avec des mots, mais que dans le domaine de l'esprit ou de la conscience, on va vers le silence. Et justement, on va au-delà des formes. Le monde de la psyché, c'est le monde des formes, des pensées, des représentations. Donc... là, on va se diriger peu à peu vers un monde qui est sans forme, qui est indéfinissable. Donc, on part de la forme. Il y a une forme, une situation, un vécu émotionnel. C'est bien une forme particulière à un moment donné qui évolue au cours du temps. Et si justement, on laisse cette forme grandir, se déployer, eh bien, on va constater qu'au bout d'un moment, elle se dissout et que là, on rentre dans le sans-forme, on rentre dans le silence, on rentre dans quelque chose où il n'y a plus rien à dire, en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour dire les choses un tout petit peu autrement, aussi de manière orientale, que la psyché, on est encore dans le monde du mental et de l'ego, alors que l'esprit nous conduit vers une non-dualité?
Oui, absolument, oui.
Mais développez un peu cette idée-là, parce qu'elle est majeure, et vous l'évoquez dans votre livre aussi, qui a progressivement fait l'expérience d'un lâcher de l'ego dans ce travail sur soi.
Oui, donc la psyché, elle est complètement gouvernée par ce qui l'attire et la repousse. Donc c'est ça qui l'anime en fait, ben de chercher à aller vers ce qui l'attire et de s'écarter et de fuir ce qui l'inquiète ou ce qui la repousse. Donc forcément, ça va conditionner tout notre rapport à la vie, puisque ben, à chaque fois, j'essaye de pas être dans le courant, le plein courant de la vie, mais de naviguer au mieux de mes intérêts, ce qui est humainement complètement légitime et compréhensible, mais qui en même temps, à certains moments, du fait de ma résistance, je vais être en travers du courant de la vie, voire à contre-courant de la vie, et donc créer des turbulences autour de moi qui vont être majeures et qui vont être très perturbatrices. Donc, c'est là où la psyché, la dimension dans la psyché de l'ego intervient très fortement, l'ego et le couple ego-mental. Donc Swamiji, Swami Prajnanpa définissait le mental comme la fonction de la pensée qui veut autre chose que ce qui est, la chose que je voudrais à la place de celle qui est, qui ne me convient pas. Et l'ego, il se caractérise par j'aime, je n'aime pas. Il y a ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et moi, je veux ce que j'aime et je ne veux pas ce que je n'aime pas. Donc, les deux sont indissociables parce qu'effectivement, dès qu'il se produit ce que je n'aime pas, effectivement, il va y avoir des émotions, il va y avoir des tas de phénomènes psychiques. Donc, effectivement, on va constater que tant qu'on est dans ce domaine régi par l'ego et le mental, on va être tributaire de l'extérieur. L'extérieur va commander mon état d'humeur. Si l'extérieur va dans mon sens, je suis content. Si l'extérieur ne va pas dans mon sens, l'extérieur ou tout ce que je considère comme autre, même à l'intérieur de moi, je vais être mal. Donc c'est là où effectivement il y a un travail sur l'ego, de voir, certes, c'est humain de souhaiter que les choses se passent à mon idée et moi je fais mon possible pour, mais en même temps de savoir que si à un moment je m'agrippe, je me mets en travers du courant, là ça va se retourner contre moi et au lieu de servir cet intérêt intelligemment, je vais même moi-même me saborder en fait. Et que j'ai intérêt, comme le disait dans ce texte de Swami Prajnanpad, d'écouter en fait ce qui émerge et une intelligence plus profonde. L'ego et le mental sont pas très malins. Ils ont toujours, même si on a un grand QI, ils ont toujours les mêmes stratégies, veulent toujours arriver à leur fin par les mêmes moyens répétitifs, sans tenir compte des déconvenues et des échecs, et recommencent.
Disons quand même que j'apporterai un bémol. Je dirais que le mental, notamment, il a une fonction de nous protéger. C'est-à-dire qu'on a mis en place notre mental face aux souffrances de la petite enfance et parce que maman n'était pas absolument dans l'amour tout le temps et papa n'était pas toujours protecteur, le mental nous a donné des bonnes raisons pour ça et on est parti dans nos névroses à cause de ça. Donc le mental, il a une fonction protectrice. Sauf qu'à un moment donné, comme vous dites, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir sortir des mensonges du mental qui nous ont protégés pendant un temps, qui nous ont permis de survivre pour aller plus loin.
C'est exactement ça. Ce sont des protections de survie. Mais la survie n'est pas la vie. Donc, c'est le Bouddha qui disait que quand on traverse une rivière avec un radeau, on n'a pas besoin, une fois qu'on a traversé la rivière, de porter le radeau sur son dos. Mais c'est ce que nous faisons avec nos mécanismes de survie venus, comme vous le dites, de l'enfance. Donc, c'est vrai qu'il y a un ménage à faire de tout ça parce que ça nous coupe de la vie, en fait. Ce ne sont plus des protections, ce sont des armures à ce moment-là.
Pratah smarami sarvadindu karujjalabham sadaratnavan makara kundalaharabhusham Pratah smarami Sunila Shastra Hasta Raktat Palava.
C'est vrai que dans les traditions spirituelles, souvent, en particulier celles qui se basent sur l'idée de l'amour inconditionnel, on oppose toujours alors le mental ou la raison à l'amour. Est-ce que vous diriez cela ? C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche d'entrer vraiment de plein pied dans l'amour. Quand je dis l'amour, ça veut dire l'amour inconditionnel, évidemment, l'amour dans le sens spirituel du terme. Qui passe aussi par l'amour des autres, évidemment.
Donc, c'est vrai que le mental, c'est un aspect très spécifique, ça, c'est pas le monde de la pensée, ça n'est pas l'intelligence, il faut le rappeler, donc il ne s'agit pas de perdre le discernement, au contraire, bien au contraire, mais ce fonctionnement très particulier qui refuse que les choses soient comme elles sont, ça oui, c'est un obstacle majeur. En fait, c'est ce qui nous ferme le cœur. Ben, si je prends un exemple très simple, vous êtes dans une interaction avec un de vos proches et ce proche commence à dire des choses qui vous heurtent, mais vous sentez très bien comment il peut me dire ça, mais pas du tout. Vous sentez une fermeture qui se produit en vous, ben que vous avez envie de rejeter ce qu'il dit en disant « mais il ne peut pas dire ça » ou « elle ne peut pas dire ça, c'est pas possible », etc. Et justement de mettre un bouclier pour empêcher ça de rentrer. Donc c'est précisément là où on peut faire l'expérience de dire « ben non, justement, je vais laisser rentrer. Oui, ça me dérange. Oui, ce que dit l'autre, ça me perturbe, ça me fait mal. Laissons faire et voyons voir. » Et vraiment, c'est une expérience que j'ai faite moi-même à nombreuses reprises, de voir que certes, dans un premier temps, c'est très inconfortable, mais que le fait d'accepter ça, de traverser ça, au bout d'un moment, mais je commence à percevoir autre chose. Et il monte d'autres réponses. Au lieu d'argumenter avec l'autre et de chercher, pendant qu'il parle, je suis déjà en train de préparer ma réponse. D'aller dans un espace où je ne sais plus du tout, dans la seconde, ce que je vais dire dans la seconde d'après, et je vais moi-même le découvrir. Il y a une émergence qui va venir de l'intérieur, justement cette écoute de la profondeur qui va amener une réponse d'un autre ordre, en fait.
C'est là où l'esprit nous permet de dépasser le fonctionnement, effectivement, du mental et de l'ego.
Absolument,
et qu'on apprend progressivement à lâcher l'ego, mais dans des situations concrètes. Parce que quand on dit qu'il faut arriver à lâcher l'ego, ça se fait que pas par pas, situation par situation, émotion par émotion.
Oui, ça c'est fondamental ce que vous dites. C'est absolument fondamental parce que souvent, beaucoup de gens sur un chemin se disent alors l'ego, c'est la bête à abattre. Et donc, bon, alors il faut pas la ramener, il faut pas se mettre en avant. C'est pas ça. Comme vous le dites, c'est que des petites situations ou des grandes situations du quotidien. Et à chaque fois, il y a l'ego qui veut que ça se passe d'une certaine manière, qui veut tirer les choses dans un certain sens. Et c'est là qu'effectivement, nous avons une pratique très concrète. Bon, est-ce que je vais laisser l'ego prendre les choses en main avec le résultat que je connais le plus souvent, ou justement je laisse cette intelligence du cœur œuvrer à la place.
Oui, alors, et j'aime beaucoup le mot que vous employez, qui vous dites « j'en ai fait l'expérience ». Et c'est vrai que d'une certaine façon, il faut que chacun en fasse l'expérience. C'est très difficile de le partager, surtout qu'on vit dans une époque où on passe plutôt pour un naïf quand on se comporte comme ça.
Oui, parce qu'on est très marqué par l'efficacité dans notre société et la performance. Donc, ce n'est pas considéré comme performant. Et justement, l'amour est très patient. Swami Prajnapad disait de lui-même, s'il avait deux « pouvoirs », entre guillemets, c'était un amour et une patience infinie. Et voilà, j'ai vu ça aussi à l'œuvre beaucoup chez Arnaud Desjardins, face à des élèves qui étaient en révolte, qui étaient très négatifs à son égard pendant des périodes. Et il montrait une grande patience. Il disait, mais ça va faire son chemin. D'autres disaient, mais enfin, il faut réagir, etc. etc. Et lui, il témoignait une grande confiance dans l'être humain en disant, mais ça va faire son chemin, en fait.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Alors, quand vous dites qu'il faut essayer d'effacer l'ego d'une certaine façon, de le laisser aller, mais c'est pas tellement, vous parlez d'effacement, mais enfin c'est plus de le laisser aller, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de désir en propre ?
Non, alors justement, l'effacement de l'ego n'est pas une démarche volontariste d'élimination de l'ego. C'est plutôt de se rendre compte quand il fait obstacle, par sa crispation, parce qu'il veut tirer les choses absolument du côté où il le veut, ou éviter que ça se passe quand il ne le veut pas. Donc oui, l'ego, et c'est normal, nous avons tous des désirs, des aspirations, et nous n'avons pas que le désir de l'amour inconditionnel, de l'aspiration de la paix. Nous avons aussi toutes sortes de désirs que nous cherchons à satisfaire. Et donc là aussi, il y a tout un travail intérieur à faire, de reconnaître ces désirs, de reconnaître ceux qui nous tiennent vraiment à cœur, pour chercher à les réaliser. Parce que là aussi, dans cette approche expérimentale, on ne va pas dire « Ah ben, il ne faut plus avoir de désir parce que le désir fait souffrir, parce que sinon on va réprimer. » Et non, des aspects fondamentaux de cet enseignement, c'est aucun déni de quoi que ce soit. Donc, s'il y a un désir, c'est important de le reconnaître et de chercher à le vivre pour faire l'expérience et voir, ben, finalement, quand je cherche à satisfaire le désir, est-ce que je vais être vraiment satisfait et durablement satisfait ? C'est-à-dire de ne pas plaquer une connaissance théorique, théologique sur le désir, satisfaire les désirs, ça n'a pas de fin. Non, je dois moi-même en faire l'expérience et vraiment vérifier ce qu'il en est pour moi et satisfaire un certain nombre de désirs, parce que ce n'est pas pareil d'avoir cherché à satisfaire ses désirs et d'en avoir satisfait certains, c'est pas pareil que de mettre une croix dessus et de dire « bon, bah, finalement, c'est pas le plus important » et je le balaye, en fait.
Et puis, je rajouterais peut-être quelque chose. Il faut distinguer les désirs qui sont effectivement des désirs liés à l'ego, tel que vous en parlez, puis le désir de l'esprit, qui est le désir aussi de progresser, le désir de l'éveil, hein, dans le bouddhisme, qui a une certaine prudence vis-à-vis du désir, on sait pourquoi, mais qui en même temps dit qu'il y a un désir fondamental qu'il ne faut surtout pas chercher à éliminer, c'est le désir d'être meilleur, c'est le désir d'atteindre l'éveil, c'est le désir de progresser sans cesse.
Bien sûr, oui. Mais donc là aussi, ce désir, il est souvent recouvert. Et on a besoin d'explorer l'intérieur et de le questionner. C'est pour ça que cette question « qu'est-ce que je cherche ? À quoi est-ce que j'aspire ?» est si importante pour vraiment le sentir, ce désir, que ça ne soit pas qu'une idée. Ce n'est pas une idée, c'est une aspiration. Donc, il y a quelque chose qui parle dans notre corps, en fait, quand nous ressentons cette aspiration.
Donc, vous, dans votre travail thérapeutique, puisque vous êtes thérapeute, une des choses que vous faites, c'est d'aider, j'imagine, vos patients à détecter ce désir profond, le plus profond qui les anime.
Voilà. Et de mettre les désirs en perspective, de voir, finalement, il y a une forme de hiérarchie des désirs, avec un désir qui peut traverser toute la vie entière, qui est ce désir, cette aspiration profonde, mais aussi d'autres désirs, certains très immédiats, d'autres à plus long terme, et que voilà, il n'y a pas de raison de maltraiter des désirs plus petits ou à plus court terme au nom de celui-là, en fait.
Est-ce que vous seriez d'accord avec notre ami Spinoza lorsqu'il dit que... Non, mais c'est une joke.
Spinoza, hein. Again.
Ça va être dur de ne pas être d'accord.
Non, mais si, on peut ne pas être d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'on ne peut pas se transformer uniquement par la raison, c'est-à-dire qu'il dit au fond, la raison n'est pas un moteur suffisant pour nous transformer, ça nous aide à discerner, mais c'est le désir qui va être le moteur de la transformation. Et on ne peut quitter un désir mauvais que si on fait susciter un autre désir qui est meilleur pour nous.
Ah ben alors là, je suis spinoziste sans le savoir, je suis totalement convaincu de ça, absolument, que justement le raisonnement ne viendra pas au bout des émotions, ne viendra pas à bout des désirs, et il faut justement contacter un intérêt plus grand. Alors là, je suis totalement convaincu.
Bon, alors si vous êtes d'accord, Lélie, on terminera cette émission sur cette parole et je vous laisse encore parler de citer quelques ouvrages.
D'autant plus que je voulais juste citer totalement dans le, ça va totalement dans le sens de ce que vous dites, un ouvrage de Viktor Frankl, Ce qui ne figure pas dans mes livres, avec une traduction et une très belle postface de Georges Elias Sarfati aux éditions Interéditions. Et on sait à quel point Viktor Frankl a été, donc lui qui était le père de la logothérapie, il va tout à fait dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser la souffrance, mais la prendre et surtout lui donner un sens. Et ça rejoint en fait tout ce qu'on vient de dire là. Et là, c'est vrai qu'il revisite en fait des étapes de sa vie, en particulier il revient sur l'expérience des camps, et Dieu sait qu'il a su traverser, laisser venir à lui cette souffrance, la traverser en lui donnant du sens. Et c'est très intime, c'est très beau, parce que c'est un ouvrage beaucoup plus personnel, je dirais, que d'autres de ses ouvrages qui seraient peut-être un peu plus théoriques. En tout cas, voilà, c'est un très beau complément à votre ouvrage, Souffrir ou aimer, transformer l'émotion. Il aurait presque pu dire souffrir et aimer, ce sont des démarches qui ne sont pas d'une certaine façon séparables. Et voilà, donc j'en recommande vraiment la lecture aux auditeurs qui, en tout cas, avaient aimé l'année dernière l'émission que nous avons faite sur Viktor Frankl.
Et je signale également un livre que je trouve excellent sur la question du mental, de tout le fonctionnement du mental qui est là pour nous aider à survivre, mais qui nous empêche de vivre. Et sur cette question des émotions, c'est un thérapeute que je connais, que j'apprécie, qui s'appelle André Charbonnier et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Entre vous et le bonheur, il n'y a que des peurs ». Voilà, aux éditions Lumière, et c'est un ouvrage qu'on trouve plus facilement chez Amazon que dans les librairies. Puis je rappelle votre ouvrage « Souffrir ou aimer », docteur Christophe Massin, « Transformer l'émotion », avec une très belle préface d'Alexandre Jolien aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons avec Marie de Henzel de la fin de vie. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.